Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Mesdames et messieurs, bonjour. Dans le cadre de Partager le savoir, nous allons maintenant commencer une nouvelle série qui consistera non plus à voyager à travers le monde, mais à recevoir des étudiants ou d'anciens étudiants qui réussissent très bien leur vie, avec un peu de volonté, un peu d'originalité, sans avoir fait des diplômes extraordinaires ni de grandes écoles, mais qui se sentent bien dans leur peau et ont un parcours très intéressant. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Ruget. Bonjour Nicolas Ruget.
Bonjour Madame Thibault.
Qui a 26 ans et que j'ai rencontré lorsque je participais à un DEA de droit public en province. Le DEA est maintenant le Master 2, je crois.
Oui.
Et vous aviez déjà un parcours d'étudiant, plus ou moins international, qui était intéressant.
Oui. Donc, après ma licence en droit privé, qui m'a d'ailleurs assez ennuyé. J'avais choisi de tenter l'aventure Erasmus pour apprendre de nouvelles façons de travailler et puis m'ouvrir au monde, hein, tout simplement. Donc, j'ai déposé mes valises à l'université de Nottingham en Grande-Bretagne, où je suis resté deux semestres et j'y ai enseigné le droit, essentiellement le droit public.
Oui. Ouais. Et puis ensuite, vous êtes revenu en France pour faire ce diplôme de droit public dans lequel vous vous êtes un petit peu ennuyé, mais pour lequel vous étiez obligé de produire un mémoire de droit public. À l'époque, j'enseignais le droit international spécial des transports et des voies de passage et je vous ai branché sur les mésaventures juridiques de l'avion Concorde. Et je crois que ça a été une aventure fort intéressante pour vous. Vous avez découvert la fameuse jurisprudence Kaufmann.
Oui. Alors à l'époque, Madame Thibault, vous m'aviez proposé de travailler sur le Concorde, parce qu'il faut savoir qu'en 2001, le Concorde reprenait du service après le terrible accident qui a eu lieu en 2000. Donc s'intéresser au Concorde, au début, pour moi, ça a été vraiment très fastidieux, très difficile. D'abord parce que le milieu aéronautique, c'est un milieu que je connaissais pas, et puis j'étais pas particulièrement fasciné par l'aviation. La question qui se posait dans le mémoire, parce qu'à force de gratter, on a fini par trouver des problématiques insoupçonnées. Les problématiques insoupçonnées, c'était que pour arriver à développer le programme Concorde et tout simplement à faire utiliser les aéroports par les avions supersoniques, il fallait lever un certain nombre de contraintes juridiques par rapport au bruit du Concorde, donc le bruit au décollage, mais aussi le bang, et enfin par rapport à la sécurité des voyages. Donc, petit à petit, avec les recherches, avec des appuis aussi, puisque à l'époque, j'avais réussi à me mettre en contact avec André Turca, qui était donc le premier pilote d'essai de Concorde en 1969. Et aussi Monsieur Alain Depitre, de la Direction Générale de l'Aviation Civile, avec tous ses contacts. Nous avons réussi, hein, puisque vous en étiez, nous avons réussi à comprendre comment ces obstacles juridiques avaient été levés.
Oui, voilà. Et finalement, le résultat, après beaucoup de mal et d'aventures, a été excellent, puisque votre chronique a été publiée aux annales de la recherche de la Faculté de droit d'Aix-en-Provence.
Voilà. Alors oui, j'ai eu l'honneur d'être publié donc, dans la revue de recherche juridique de l'Université d'Aix-en-Provence en début de l'année 2004. Et c'est un vrai honneur d'avoir vu mon travail publié et puis lu par d'autres personnes.
Oui, et connu dans beaucoup de pays de langue française.
Mais il faut dire, c'est vrai que c'était un travail original. C'est vrai qu'on était sortis des sentiers battus et c'était une publication qui valait son pesant d'originalité.
Oui. Et vous avez également découvert à cette occasion que vous aviez un certain petit talent de plume.
Oui, je me suis rendu compte que j'étais capable d'écrire. Tant bien que mal. Je n'ai pas poursuivi en thèse, mais c'est vrai que ça a confirmé que j'aimais bien écrire, oui.
Oui. Alors, quand vous avez eu votre DEA à l'époque, Master 2, vous n'étiez pas du tout emballé pour faire une thèse et vous étiez un petit peu vacant, je dirais. Vous ne saviez pas très bien où vous alliez poser vos valises à nouveau. Et le hasard des rencontres, des relations et des opportunités a fait que...
Oui. Alors... Comme vous le dites, après mon DEA, j'ai été comme de nombreux étudiants qui arrivent à la fin de leur cursus. C'est-à-dire, j'étais un petit peu dans l'expectative et puis je n'avais pas vraiment de projet professionnel et les études s'arrêtent net d'un coup et il faut repartir sur autre chose.
Et en plus, à l'université, très souvent, on n'apprend pas un métier.
Non, on n'apprend pas un métier. Donc, on est livré à soi-même après 5 ans où on est encadré, on est à l'école. Donc, je me suis orienté assez naturellement vers les concours puisque je trouvais que le service public me correspondait mieux, tout simplement. Hein. Donc je suis arrivé dans l'univers inconnu des concours, mais je me suis un petit peu lassé parce que, par usure aussi, parce qu'après 5 ans d'études, on a envie de prendre un peu le temps, et puis parce que préparer les concours, ça demande du travail. Donc, par envie de voir autre chose et par le jeu de certaines relations, j'ai décidé de partir 2 mois et demi en République du Kirghizistan, une ex-république soviétique, où j'ai découvert beaucoup de choses.
Oui, alors ça, ça a été une expérience, je dirais, irremplaçable.
Oui, ça a été une expérience d'autant plus irremplaçable que 3 mois avant de partir, je n'avais jamais entendu parler de ce pays. Donc, je dois dire que ça a été vraiment une expérience inattendue et extrêmement enrichissante.
Alors, qu'est-ce que c'est que le Kirghizistan ?
Alors, le Kirghizistan, le Kirghizistan, c'est une ancienne république soviétique, hein, oui. Indépendante depuis la chute de l'URSS.
Très enclavée,
alors,
je crois.
Très enclavée, entourée d'une chaîne de montagnes qu'on appelle le Tian Shan, coincée entre la Chine et le Kazakhstan, extrêmement enclavée. C'est un tout petit pays qui est, je dirais, très peu connu, hein, dont on ne parle jamais. Sauf qu'on en a parlé l'année dernière à l'occasion de la révolution des tulipes qui a eu lieu en 2005.
Oui, révolution qui avait lieu également en Ukraine, en Géorgie.
Oui, voilà, ça fait partie du même mouvement de protestation des anciens pays de l'ex-Union soviétique.
La capitale est...
Alors, la capitale est Bichkek.
Oui.
Et la deuxième plus grande ville du pays, c'est Osh.
Osh, qui s'écrit...
O-S-H.
O-S-H.
Rien à voir avec la ville du Gers.
Ni le général.
Oui, donc le Kirghizistan, c'est un pays qui a été intégré très vite à l'Union soviétique et qui a acquis son indépendance et qui fait figure un petit peu d'îlot de démocratie au sein de l'Asie centrale, puisqu'il est vrai que c'est un pays qui est entouré par l'Ouzbékistan, par le Kazakhstan, le Tadjikistan, qui sont des pays qui ont été secoués, le Tadjikistan notamment par des guerres civiles et qui subissent des régimes très durs, très autoritaires. Ouais. Donc le Kirghizistan, c'est un pays aussi qui laisse des traces visibles de la période soviétique, hein, des autoroutes peu entretenues, des instituteurs à la retraite qui n'ont pas les moyens de vivre,
oui.
Et d'une façon générale, une économie délabrée qui n'attire pas du tout les investisseurs. Donc c'est un pays, je dirais, dont on parle très peu et qui...
Oui, qui a été très soviétisé.
Très soviétisé. Pour preuve, on y parle énormément le russe, notamment dans la capitale. Je ne suis pas allé à Osh parce que Osh est à plus de 15 heures en voiture. Et quand on connaît l'état des routes, je n'ai pas préféré tenter l'aventure. Cependant, il paraît que ça vaut le coup puisque vous traversez littéralement tout le pays, les chaînes de montagnes, il paraît que c'est absolument magnifique.
Oui, je crois que ce sont de très très belles régions, ces régions d'Asie centrale qu'on connaît tellement peu. Vous m'avez dit sur le Kirghizistan des choses très intéressantes, notamment eu égard à la religion islamique, puisque c'est un pays très majoritairement islamisé. Vous m'avez dit que c'est une islamisation à la fois molle et désordonnée.
Oui. Oui, quand vous allez dans la capitale, donc à Bichkek, vous n'êtes pas frappé par l'islamité des gens. Je veux dire, peut-être Osh plus, parce que c'est une ville plus tournée vers l'Ouzbékistan. Et à cet égard, des explications ont été avancées. Pendant très longtemps, sous l'Union soviétique, la religion a été l'opium du peuple. Et l'État avait la main mise sur les croyances. Lorsqu'en 1991, les gens se sont retrouvés, la population s'est retrouvée face à elle-même, elle a eu ses propres interprétations du Coran et elle s'est appropriée la religion à sa façon, ce qui a donné lieu à un intégrisme rampant comme on peut en avoir actuellement en Ouzbékistan et qui constitue une réelle menace sur le plan international.
Oui, et il y a des déviations d'interprétation.
Je pourrais pas vous dire.
Oui.
Je ne pourrais pas vous dire.
C'est trop savant. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau pendant 3 mois dans cette contrée très ignorée?
Alors, j'y ai rencontré d'abord beaucoup de locaux, ce qui a été extrêmement enrichissant.
Vous parliez quoi?
Je parlais très mal le russe. Il faut dire que le russe est une langue particulièrement difficile. On parlait anglais, essentiellement. J'y ai rencontré essentiellement d'étudiants anglais, qui parlent anglophone, puisque j'ai donc travaillé en tant que bénévole à l'université américaine d'Asie centrale. J'y ai donné un cours en anglais de droit communautaire à des étudiants de 4e année de droit. Alors, ça n'a pas été très simple de leur expliquer la structure en piliers, mais ça a été une expérience très intéressante. Et j'ai eu l'occasion de faire un petit peu de paperasse pour l'administration de la School of Law. Et également, j'ai prêté main forte à une organisation non gouvernementale qui s'appelle Habitat for Humanity et qui aide les citoyens à construire leur maison.
Leur maison. Parce qu'il y a un manque d'habitat.
Oui, et particulièrement quand vous quittez la capitale, vous vous rendez compte de l'état de délabrement et, je dirais, des besoins de la population en matière de logement.
Donc, vous avez fait à la fois de l'enseignement d'un côté et de l'humanitaire de l'autre.
Modestement, l'enseignement. Voilà.
Quand vous êtes rentré de ces contrées d'Asie centrale, vous aviez quel programme personnel ?
Alors, le programme, l'avantage de mon expérience en Asie centrale, c'est qu'elle m'a permis de me ressourcer et de repartir vers les concours avec plus de lucidité, plus d'envie aussi.
Oui.
Je me suis donc attaché à rechercher les concours qui m'intéressaient le plus et parmi eux, il y avait le concours de contrôleur du travail, qui était un concours pour lequel je me sentais prêt, parce qu'il correspondait à l'utilité que je voulais faire de mon métier.
Oui, ce qu'il y a de remarquable chez vous, c'est que vous voulez être utile à la société.
Oui, parce que je ne conçois pas de passer toute une existence sur Terre à travailler que pour moi, et j'ai tout simplement envie de faire profiter les autres. C'est une conception de mon travail, j'ai envie de travailler, d'être utile.
C'est très bien. Et ça réussit, finalement. Alors, vous avez réussi ce concours.
Oui, j'ai passé aussi le concours d'attaché territorial que j'ai obtenu. Mais c'est vrai que je souhaitais en priorité exercer le métier de contrôleur du travail.
Donc maintenant, vous êtes fonctionnaire à l'inspection du travail.
Oui.
Et le hasard des affectations, ou à votre demande...
M'a conduit à Dunkerque, dans le nord du Nord.
Oui. Alors, dans un lieu tout à fait intéressant pour l'inspection du travail, car c'est un lieu de grosse métallurgie, dont on peut dire la métallurgie lourde et sale.
Voilà, c'est l'industrie lourde et sale. J'ai découvert donc la réalité industrielle du Nord et de la France, puisque ça fait partie de la France. J'ai découvert la réalité donc de cette industrie avec ces industries Céveso, qui sont donc des entreprises dangereuses. J'ai découvert aussi la réalité de ce que c'est qu'un port, qui quand même brasse 55 millions de tonnes de fret par an, ce qui en fait le troisième port de France. Oui, c'est un univers industriel et professionnel très surprenant et qui, je dirais, me permet de faire mes armes de contrôleur et d'agent de contrôle.
Donc, vous avez enfin compris ce que voulait dire la directive Céveso.
Oui, j'ai compris j'ai compris les impératifs de sécurité qui est la problématique de risque industriel qui est très présente en Europe.
Oui. Donc, c'est un métier très vivant. Vous ne faites pas que du bureau. Vous faites...
Non. Alors, la journée d'un contrôleur se passe, je dirais, de façon très vivante. Nous sommes amenés à passer la plupart de notre temps donc à l'extérieur, dans les entreprises, sur les chantiers, que ce soit des chantiers donc de retrait d'amiante ou des chantiers de bâtiments et travaux publics, ou que ce soit donc l'industrie, comme vous le disiez, la métallurgie. Donc nous sommes un métier de terrain. Et l'autre partie de notre temps, nous rédigeons les observations faites suite au contrôle.
Alors, vous êtes un contrôleur heureux et vous passez en ce moment même, puisque vous avez eu l'écrit et que vous préparez l'oral, le concours qui vous mènera éventuellement à l'échelon supérieur.
Voilà, donc je passe actuellement le concours d'inspecteur du travail, qui est le grade supérieur par rapport à contrôleur. C'est un concours donc assez long, assez difficile, c'est vrai, et qui débouche sur, si vous êtes donc reçu, sur une formation qui dure 18 mois et qui a lieu entre une école à Lyon, une école de formation à Lyon, et une direction départementale de rattachement où vous effectuez votre stage pratique.
C'est un concours, je crois, difficile, puisque au départ, vous étiez 3000 candidats et vous n'êtes
qu'on
plus
était
que...
Alors, à la fin, nous sommes 200 à passer les oraux et cette année, je crois qu'il y a une centaine de postes.
Très bien. Donc, vous voyez qu'avec un parcours à la fois original mais assez classique, qui n'a pas demandé des efforts surhumains et beaucoup d'optimisme, on arrive à être un citoyen heureux et très bien dans sa peau. Merci Nicolas Rouget et nous vous souhaitons beaucoup de réussite.